À temps nouveau, forme nouvelle et homme nouveau. À temps nouveau, précepte nouveau et femme nouvelle. Je viens, comme de plusieurs, de passer 2 semaines de vacances, un temps plus particulier où on prend le temps. 2 semaines spéciales pendant lesquelles 2 moments importants de notre calendrier ont apporté la joie dans nos foyers. Noël. Noël est le rappel que Jésus est venu s'incarner pour comprendre notre humanité. J'ai pris le temps de lire le livre de Max Lucado qui s'intitule « À cause de Bethléem ». Dans ce livre, l'auteur pose un regard éclairé sur chaque acteur de la crèche. Je voudrais juste en lire un extrait. Il est venu, Jésus est venu, lui aussi, dans les larmes. Il sait ce qu'on ressent quand on a le cœur brisé. Il sait quel crève-cœur la vie peut apporter. Il aurait pu venir comme une lumière éclatante ou une voix dans la nuée. Mais il a pris forme humaine. Dieu nous comprend-il ? La réponse se trouve à Bethléem. Comme tous les acteurs de la crèche, contemplez le visage de Dieu et vous serez rassurés. Si le roi a accepté de venir au monde parmi des animaux, des bergers et des langes, ne pensez-vous pas qu'il peut entrer en vous ? Il a pris un visage comme le vôtre, afin que vous puissiez voir le sien. Et on l'a chanté ce matin. Et nous avons relu aussi ce récit de la Nativité lors de notre culte de Noël. Et il nous ouvre le chemin vers Pâques. Le deuxième événement, c'est bien entendu la nouvelle année. 2018, après Jésus-Christ. Alors, nous nous sommes souhaités une bonne année. Mais c'est un peu réducteur. Parce que non seulement nous avons changé d'année, mais aussi de mois, de semaines, de jours, d'heures, sans parler des minutes et des secondes. Toutes ces mesures de temps, et on l'a encore chanté ce matin, ont leur importance dans la parole. Par exemple, dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. La première intervention de Jésus à la synagogue, après les 40 jours dans le désert, où il lit dans le livre d'Ésaïe, et Luc nous le relate au verset 18 et 19 du chapitre 4, Jésus lit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Jésus est venu proclamer une année de grâce. Quelle durée a-t-elle ? Elle le chantait pour la durée des temps. Laissons le Seigneur agir pour nous. Il vous affermira, vous consolera, nous pardonnera, nous instruira, et ainsi nous vivrons une année de grâce avec lui. J'aurais pu m'en arrêter là finalement. Mais je me suis penchée sur le mot nouveau. Nouvelle année, nouveau temps. Alors je me suis plongée dans le nouveau dictionnaire biblique, dans le nouveau commentaire biblique. Et si l'Ecclésiaste affirme qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le psalmiste prie le Seigneur de lui donner un esprit nouveau. Les prophètes annoncent de nouveaux événements. Ils parlent d'une alliance nouvelle que Dieu établira avec son peuple. Dieu lui-même annonce de nouveaux événements avant même qu'il n'ait eu lieu. Et il place la louange dans la bouche de son peuple. Dans le Nouveau Testament, le mot nouveau, neuf ou nouveauté sont employés 72 fois. Et se rapporte bien sûr à l'ère inaugurée par la venue de Jésus-Christ à Noël. Le baptême fait passer de l'homme ancien à l'homme nouveau. Il y a le nouveau-né, des habits neufs, le vin nouveau, des outres neuves. Alors, ce matin, je voudrais partager un texte qui parle de nouveauté. En voici le contexte. Jésus vient de s'inviter chez Lévi le péager. Lévi organise alors dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes sont à table avec eux. et parmi elles, des collecteurs d'impôts. Les pharisiens, ces hommes qui mettent une séparation entre eux et le reste du peuple, entre eux qui pensent être champions de l'obéissance, et les autres, les pécheurs, les mauvais, ceux qui n'y arrivent pas. Les pharisiens avaient beaucoup de mépris pour ceux qui n'étaient pas aussi justes qu'eux. Et là, ils sont indignés de voir Jésus manger à table avec des collecteurs d'impôts. Et ils interpellent les disciples de Jésus. Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires? Jésus leur répond, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Et c'est à ces pharisiens que Jésus répond par les versets de Luc 5, versets 36 à 39, que nous allons lire maintenant. Et au travers de ces versets, Jésus va mettre les points sur les i concernant la nouveauté de son message. Luc chapitre 5, versets 36 à 39. Jésus utilisa la comparaison suivante. Personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, et il se répand, et les outres sont perdues, et le vin aussi. Non, il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. À temps nouveau, forme nouvelle et homme nouveau, à temps nouveau, précepte nouveau et femme nouvelle. Deux petites paraboles, deux petites comparaisons tirées de la vie quotidienne, le rapiéçage et les outres de vin. Si je m'y connais un peu dans le maniement du fil et de l'aiguille, je ne suis pas fine connaisseuse de vin. Mais je ne pense pas qu'il faille être un spécialiste de la haute couture ou un œnologue averti pour comprendre ces paraboles. Un peu de bon sens va nous suffire pour saisir ce que Jésus veut dire au travers de ces deux petites comparaisons. C'est assez évident. Nous n'allons pas couper un morceau de notre superbe vêtement de fête pour le recoudre sur un bleu de travail déjà usé. Ça ne servirait à rien. Et les deux vêtements risquent d'être perdus. C'est tout aussi évident avec le vin. Aujourd'hui, ici, on utilise plus des tonneaux que des outres, mais on voit la stupidité qu'il y a à mettre du vin nouveau dans de vieilles outres déjà craquelées, dans des vieux tonneaux trop secs. Alors, au temps de Jésus, les outres étaient fabriquées avec une peau de bête. Donc, un animal devait être sacrifié ou mourir naturellement pour fabriquer une outre neuve. La tête était coupée en haut du cou afin qu'il devienne le bec verseur. Tout l'intérieur de l'animal était retourné, était vidé par cette ouverture, sans déchirer la peau pour que tout reste entier. Ensuite, cette peau était retournée. L'intérieur était alors exposé au soleil pendant des semaines, pendant même des mois, pour que tout ce qui était à l'intérieur sèche, que les graisses et les lambeaux de chair soient éliminés. Et la peau était mise alors dans l'eau pendant plusieurs semaines, et ce séjour dans l'eau allait l'assouplir. Retirée alors de l'eau, elle était utilisée. Mais si elle n'était pas utilisée, elle perdait toute cette souplesse. Je vous invite à garder en mémoire cette fabrication de l'outre, tirée d'un animal, vidée de tout, desséchée, puis rendue souple. Par ces paraboles, Jésus ne dit pas que c'est impossible de coudre une pièce neuve sur un habit usé. On peut toujours essayer. On peut toujours bricoler, chercher à réfistoler le vieil habit avec de nouveaux morceaux d'étoffe. On peut aussi tenter l'expérience hasardeuse de mettre du vin nouveau dans des anciennes outres. Jésus ne dit pas que c'est impossible, mais il veut montrer le grave dommage qu'il en résulterait. Ce n'est pas impossible, mais gare à la casse. Entre le vieux et le neuf, compromis difficile, adaptation pas facile. Il faut choisir, soit on rafistole, et quelques jours plus tard on jette tout, soit on achète un habit neuf. Soit on garde malgré tout les vieilles outres, parce qu'on croit qu'elles vont sont encore en bon état, soit on délaisse les vieilles outres et on fait l'effort d'en acheter de neuves. Mais Jésus n'est pas en train de donner un cours de couture aux pharisiens. Il n'est pas en train de leur apprendre l'ABC du parfait vigneron. Par contre, l'aiguille qu'il utilise va toucher les pharisiens à la peau dure. Qu'y a-t-il de si scandaleux dans ces deux petites histoires ? Quel est le sens profond ? Jésus apporte quelque chose de vraiment nouveau. Il apporte un air nouveau qui va bouleverser les vieilles ritournelles des pharisiens. Jésus propose une vie radicalement nouvelle à tous ceux qui croulent sous l'enseignement religieux classique de l'époque. Par sa vie, par ses paroles, Jésus inaugure un temps nouveau. Fini les vieilles complaintes tristes des prophètes de malheur. Voici venu le temps de la joie et de l'espérance. Fini la loi qui emprisonne et qui condamne. Voici venu le temps de grâce qui pardonne. Voici le temps de l'amour qui libère. La vie chrétienne n'est pas un rapiessage continuel. La vie chrétienne n'est pas un tissu fait de briques et de brocs. Mais la vie chrétienne, c'est quelque chose de vraiment neuf. Quelque chose qui se renouvelle chaque jour, chaque instant. Et qui vient dans ma vie, qui la transforme. Alors, oui, fini le temps des vieux rapiessages mal cousus ? Jésus propose une vie radicalement nouvelle à tous ceux qui croulent sous l'enseignement religieux classique aujourd'hui encore. À temps nouveau, forme nouvelle et homme nouveau ? À temps nouveau, précepte nouveau et femme nouvelle ? Ma belle-mère m'a offert ce livre à Noël. Alors, tu ne veux plus aller à l'église. Elle m'a rassurée, elle m'a dit oui, le titre, bon, mais voilà. Alors, ben, j'avais fini à cause de Bethléem, donc je me suis plongée dans celui-ci. Et ce livre raconte une rencontre. Une rencontre entre Jake, pasteur dans une église américaine, et un homme qui parle de Jésus comme s'il l'avait connu. Et dont la manière de vivre remet en question tout ce que Jake est en train de vivre. Dans le passage que je vais vous lire, c'est l'homme qui parle à Jake et lui dit ceci. Une des leçons les plus importantes enseignées par Jésus à ses disciples était d'arrêter de chercher la vie de Dieu dans des rituels et des responsabilités. Il n'était pas venu pour remettre leur religion au goût du jour, mais pour leur offrir une relation. Était-ce une coïncidence qu'il y ait eu toutes ces guérisons le jour de sabbat ? Bien sûr que non. Il voulait montrer à ses disciples que les règles et les traditions des hommes se mettent toujours en travers de la puissance et de la vie de son Père. Il n'y a pas de prison plus forte que l'obligation religieuse. Elle nous retient captifs, alors que nous l'accomplissons en pensant plaire à Dieu. Et nous nous en félicitons. Je passais devant une synagogue hier et le rabbin est sorti pour me demander si je ne pouvais allumer les lumières pour lui. Quelqu'un avait oublié de le faire le jour d'avant et il ne pouvait pas le faire sans briser le sabbat. C'est assez ridicule, non ? Peut-être pour toi, comme certaines choses que tu fais peuvent l'être pour lui. Les choses que je fais, répond Jake, je ne fais rien de tel par rapport au sabbat. Bien sûr que non. Mais si tu manquais la réunion du dimanche pendant un mois, si tu restais à la maison ou si tu donnais la dîme directement aux pauvres plutôt que de la mettre dans la collecte. Oui, mais moi, je fais ces choses non pas parce que je pense que c'est la loi, mais parce que je suis libre de le faire. » Le rabbin ne dirait pas autre chose. « Mais si tu es honnête, tu admettras que tu l'es fait parce que tu crois qu'elles te rendront plus acceptable aux yeux de Dieu et qu'il sera mieux disposé envers toi. Si tu n'agissais pas ainsi, tu te sentirais coupable. » Ce texte est venu un peu remuer ma prédication. Jésus propose une vie radicalement nouvelle, aujourd'hui encore. Et les vieilles outres, et le vin nouveau. Eh bien, dans la Bible, le vin est souvent le symbole de l'Esprit de Dieu. En parlant de vin nouveau, Jésus parle de vie nouvelle, une vie remplie, dirigée par l'Esprit de Dieu. Jésus apporte au monde un esprit nouveau. Cet esprit, pour qui est-il? Pas pour les vieilles outres, mais pour les outres neuves. Un nouvel esprit pour des hommes nouveaux. Voilà quel pourrait être le slogan aujourd'hui de Jésus. Un nouvel esprit pour des hommes nouveaux, pour une ère nouvelle, pour une ère réellement, profondément humaine. Pareil à de vieilles outres, les pharisiens étaient trop rigides pour accepter Jésus. Celui-ci n'entre pas dans le moule de leurs traditions et de leurs règles. Ce matin, n'en soyez pas outrés, nous sommes des outres. Nous sommes des outres à moitié percées ou des outres neuves dans lesquelles coule le vin nouveau de l'Esprit de Dieu. Le christianisme exige une nouvelle approche, un renouvellement des structures. Comment laisser la place aux directives nouvelles du Saint-Esprit dans nos communautés, nos ministères, nos vies, nos cœurs? Nous-mêmes, veillons à ce que nos cœurs ne deviennent pas durs et sclérosés, nous empêchant d'accueillir une nouvelle façon de penser inspirée par Christ, gardant un cœur souple, capable d'accepter le message de Jésus, un message qui change la vie. Outre nouvelle, homme nouveau, femme nouvelle, et surtout relations nouvelles, attitudes nouvelles les uns envers les autres. Plus de compréhension et moins de jugement, plus de grâce et moins de légalisme, plus d'indulgence et moins d'exclusion, plus d'amour et moins d'indifférence, plus de pardon et moins de rancune, plus d'entraide et moins d'individualisme, plus d'action et moins de parole, plus d'ouverture et moins d'intégrisme, plus de joie, plus de foi, plus d'esprit de Dieu et moins d'esprit humain. Alors, à la poubelle les vieux morceaux de tissu rapiécés, aux ordures les vieilles outres crevassées, et place aux habits neufs, place aux outres nouvelles remplies de vin nouveau. À temps nouveau, formes nouvelles et hommes nouveaux. À temps nouveau, préceptes nouveaux et femmes nouvelles. Mais comme dit Jésus, bien sûr qu'on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Il y en aura toujours qui préféreront garder les vieilles habitudes. Il y en aura toujours qui refuseront de changer. Il y en aura toujours qui se méfieront des choses nouvelles. Il y en aura toujours qui préféreront rester craintivement et timidement dans leur cave, admirer et cajoler les vieilles bouteilles, plutôt que d'aller à l'air libre, dans le vent, dans le soleil, dans la pluie, pour contempler et toucher les grappes de raisin. Ces grappes qui sont autant de promesses de vin nouveau et abondant. De vieilles outres, il y en aura toujours. Des habits rapiécés, on en verra toujours. On ne peut pas forcer à boire le vin nouveau de l'Esprit de Dieu. On peut juste montrer par notre vie qu'un habit neuf est plus joli qu'un vieux bout de tissu raccommodé de toutes parts. On peut juste montrer par une manière de vivre que le vin nouveau n'est pas si mauvais que cela et qu'il vaut la peine de le goûter et de le boire à l'entrée. À temps nouveau, forme nouvelle, à année nouvelle, femme et homme nouveau. Et je ne peux m'empêcher de lire un second passage. Jacques parle du devoir d'aller à l'église et l'homme lui répond. Écoute-toi, Jake. Tu utilises des mots comme besoin, devoir, censé être. Est-ce là cette vie du corps à laquelle Dieu t'appelle ? Ben, je pensais que oui, dit Jake. Les Écritures n'utilisent pas le langage du besoin en parlant de la relation vitale que Dieu établit entre les croyants. Notre dépendance est vis-à-vis de Jésus seul. C'est de lui dont nous avons besoin. C'est lui que nous suivons. C'est en lui que Dieu veut que nous placions notre confiance et que nous nous appuyons pour tout. La religion survit en nous disant que nous devons respecter la norme, sinon des choses terribles nous tomberont dessus. Une telle approche dénature le travail de Dieu. Nous partageons la vie du corps non pas parce que nous le devons, mais parce que cela va de soi. Quiconque, appartenant à Dieu, va saisir la vie qu'il veut que ses enfants partagent entre eux. Et cette vie n'a rien à voir avec la lutte pour le contrôle de l'institution. Elle consiste simplement à s'aider mutuellement, à apprendre à vivre profondément en lui. Il ne reste plus qu'à jeter nos vieux habits, nos vieilles outres, à nous remettre en question. Et c'est souvent ce que l'on fait en ce début d'année. Et à nous laisser revêtir, à nous laisser désaltérer par l'esprit. Pour vivre une vie nouvelle, pour vivre une vie d'église nouvelle. Nous laisser désaltérer par l'esprit pour inventer des formes nouvelles et pour avoir de nouvelles attitudes les uns envers les autres. Alors, en ce début d'année, porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions, de nouveaux vœux, soyons réalistes et sages. Nous savons bien que ce n'est pas le fait de franchir une année nouvelle qui transformera notre vie. Qu'est-ce qui est plus important ? Entrer dans une nouvelle année ou dans une nouvelle dimension de notre existence ? Que l'Esprit Saint vienne remplir les autres. Amen. J'invite à chanter un chant qui dit « Seigneur, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi. Mets-nous à ton écoute. Donne-nous ton amour. Sois le maître en nous. Donne-nous l'attention nécessaire à l'autre. Apprends-nous à pardonner. » Je vous invite à vous lever pour chanter « Souffle, souffle de Dieu ».